parole de Dieu, du message. Composé de plusieurs éléments, la louange, l'adoration, la prière, la lecture, et puis il y a aussi le message préparé devant le Seigneur, et je prie qu'il puisse avoir un impact sur nos vies. Le message de ce matin parle de l'importance d'échapper à l'enfer. C'est un message qui n'est pas facile et je suis particulièrement ému en parlant parce que je n'en parle pas souvent de l'enfer. Dans notre Église, nous croyons à l'enfer, mais nous n'en faisons pas un sujet perpétuel où nous ne cherchons pas à utiliser cette vérité pour susciter la peur. Parce que pendant des siècles, c'est comme ça qu'on prêchait l'enfer, on essayait de faire peur aux gens pour qu'ils rentrent tous dans l'Église. Il n'y a pas besoin de faire peur, parce que nous avons déjà peur au fond de nous-mêmes quand on pense à l'enfer. Il y a notre conscience qui sonne, et c'est déjà un sujet qui nous effraie rien que d'y penser. Je ne voudrais pas chercher à manipuler des émotions, mais le fait est que la Bible parle du châtiment éternel, parle d'une destination finale pour les perdus, pour les incrédules, pour les impies. La vérité, c'est que notre Créateur, qui est juste et absolument saint, va un jour juger toutes les âmes. Il est dit dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12 et au verset 14, verset 16, pardon. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout sera amené en jugement, même et peut-être surtout ce qui est caché. Parce qu'il y a beaucoup de choses commises par les hommes, bien ou mal d'ailleurs, qui ne reçoivent aucune rétribution, aucun jugement. Mais lorsque Dieu jugera les hommes, ce sera complet, total. Rien n'échappera à son regard et à sa sainteté et à sa justice. Ne pas parler de l'enfer dans une église, c'est comme une non-assistance à personne en danger. Laisser croire que nous irons tous au paradis, c'est un mensonge du diable. Même s'il y a une chanson connue en français, hein, c'est peut-être même le pire des mensonges du diable, de nous faire croire que tout va bien, continue comme ça, tu iras de toute façon au paradis. Qu'est-ce que Jésus a dit à ce sujet? Il a dit « Large est le chemin qui mène à la perdition, pas au paradis, à la perdition. Et il y en a beaucoup qui iront. Mais étroit est le chemin, resserré, hein, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Et le rôle d'une église, c'est justement d'expliquer comment échapper à l'enfer, d'aider les gens à trouver le chemin resserré, la porte étroite. C'est ça notre rôle. En tant que chrétien aussi, de ne pas laisser les gens aller à la perdition comme des moutons qui vont à l'abattoir. Celui qui a peut-être le plus parlé de l'enfer dans la Bible et qui est venu nous en sauver, c'est celui qui était doux et humble de cœur, c'est celui qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Un jour, il y a un évangéliste qui prêche dans une petite ville de campagne et après son message où il a parlé de l'enfer, il y a un paysan qui vient le voir et qui lui dit « Vous auriez pu nous parler d'autre chose que de l'enfer. Vous auriez pu nous parler de Jésus, de son amour, de sa miséricorde. » Et l'évangéliste lui a répondu, « Mais vous savez, toutes mes informations sur l'enfer, je les tiens de Jésus. Car c'est lui qui en a parlé le plus. » Quand Jésus parlait de l'enfer, ce n'était pas pour y emmener tous les gens. Hein. C'était pour avertir les âmes. pour leur montrer comment en sortir, y échapper. Pas en sortir, mais y échapper. C'était pour pleurer sur l'endurcissement de son peuple. Hein. Rappelez-vous, lorsqu'il a contemplé la ville de Jérusalem, hein, il a dit « Combien de fois ai-je voulu te rassembler sous mes ailes ? Et tu ne l'as pas voulu. » Et il pensait à tous ses frères juifs qu'il avait, qui refusaient de se repentir et de venir à Dieu, et qui étaient endurcis. Et il pleurait sur eux. C'était pour plaider aussi avec les âmes, de changer de direction. Car pour être sauvé de l'enfer, il faut changer de direction à un moment. Si vous continuez sur votre route, vous êtes sur la route de la perdition. La Bible nous avertit à plusieurs reprises sur l'enfer. Et heureusement, et c'est pour ça aussi que Dieu a inspiré la Bible, c'est un livre d'avertissement. Imaginez que le feu se déclare dans votre immeuble ou dans votre lotissement en pleine nuit. Et il s'avère que vous vous êtes réveillé à ce moment-là et vous découvrez qu'un incendie fait rage, la fumée, les flammes. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez vous dire, bon, je vais rester dans mon lit, de toute façon, les pompiers arrivent toujours à temps pour sauver tout le monde. On n'a jamais entendu parler que quelqu'un ait péri dans un incendie, n'est-ce pas? C'est ça que vous vous dites? Si vous êtes un citoyen digne de ce nom, vous allez appeler premièrement les pompiers, vous allez mettre à l'abri votre famille, hein, évacuer votre famille, et troisièmement, vous allez réveiller tout le monde qui est en train de dormir pour qu'ils sortent de chez eux. C'est le rôle de Christ quand il était sur terre, c'est notre rôle aujourd'hui d'aller réveiller les gens, de les secouer, de dire « Hé, il y a un feu !» Il y a la mort au bout. Vous allez mourir, nous allons mourir. Et il y a un jugement à la fin, un châtiment éternel dont parle la Bible. Et il faut changer de direction, il faut sortir, il faut être évacué, vite. Ne pensez pas, oh, de toute façon, personne n'est revenu de la mort. Si quelqu'un est revenu, le Seigneur Jésus est revenu. Il est ressuscité des morts. S'il y a quelqu'un qui peut nous parler de l'enfer et du paradis, c'est Jésus-Christ, hein. Et il nous a plusieurs fois averti. Que dit la Bible, l'Ancien Testament d'abord, dans le livre de Daniel, au chapitre 12, verset 2, je lis ceci. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. » Alors, c'est une image, hein, c'est-à-dire plusieurs de ceux qui sont morts et enterrés. « Se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. » L'opprobre éternel. Ce réveil dont il parle, c'est la résurrection finale. Il ne dit pas comment être sauvé, là, dans ce verset, mais il nous dit qu'un jour, il va y avoir une résurrection des morts et que les morts vont être jugés. Certains vont aller à la vie éternelle et d'autres vont aller à la honte éternelle. Il ne dit pas à l'anéantissement, parce que certains groupes qui se réclament de la Bible disent que si on n'est pas croyant, à la résurrection, on va être anéanti, enfin, on va disparaître. Il n'y a pas d'enfer, tout ça, ça n'existe pas. Pourtant, la Bible en parle souvent et elle dit oui, il y a une résurrection pour tous les hommes après la mort et certains iront au châtiment éternel. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 66 et au verset 24, il dit « Quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. » C'est Dieu qui parle. « Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Là, le prophète Ésaïe décrit un peu justement cet enfer éternel où le feu ne s'éteint pas, où le ver ne meurt pas, hein, ce ver qui ronge la conscience. Hein, c'est une image là encore. Dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, il écrit « Ils auront pour châtiment, les impies, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Ici, l'apôtre Paul écrit que ceux qui ne se repentent pas, qui ne se tournent pas vers Christ, auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face de Dieu. Ceux qui ne veulent pas de Dieu dans leur vie ne l'auront pas dans la vie après la mort. Ils iront dans le seul lieu de l'univers où Dieu n'est pas, l'enfer. Loin de la gloire de sa force. Un lieu de ténèbres, un lieu de feu, de souffrance. Dans le livre de l'Apocalypse, justement, au chapitre 20, verset 15, il dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu, là où il y a des pleurs, des grincements de dents, du feu et du soufre, des tourments. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie. » La question qu'on se pose tout de suite, c'est comment être écrit dans le livre de vie? Rassurez-vous, évidemment, je vais donner la réponse dans ce message. La Bible en parle, mais c'est en effet Jésus qui en a parlé le plus. Et pour désigner l'enfer, il disait la géhenne. Si vous lisez les évangiles, il parle plusieurs fois de la géhenne. Qu'est-ce que c'est la géhenne? Pour les Juifs de Jérusalem en particulier, c'était très parlant. Géhenne, ça vient de Gehinnom en hébreu, qui veut dire la vallée de Hinnom. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette vallée? C'est que dans l'Ancien Testament, un certain nombre de personnes avaient offert des enfants en sacrifice dans cette vallée au dieu Moloch. Il y avait une telle idolâtrie que les gens venaient apporter leurs enfants en sacrifice. En général, c'était le premier-né qu'on devait offrir. Imaginez votre premier bébé qui sort de votre sein et que vous offrez à une statue, à une divinité. Et en général, comment faisait-on l'offrande? C'est qu'il y avait cette immense statue de Moloch et dans la statue, il y avait, qui était en pierre, il y avait une chaudière ardente. Et le dieu, alors certaines statues ont été retrouvées, le dieu tenait ses deux mains comme ça et c'était bouillant et on mettait l'enfant sur les mains bouillantes. Et l'enfant mourait dans d'atroces souffrances. Voilà où menait l'idolâtrie. À cause de ces sacrifices qui ont été bien sûr arrêtés par les rois d'Israël après, et par Dieu, on a appelé ce lieu le lieu justement de la géhenne. C'était un lieu d'horreur, un lieu qui repoussait les Juifs. Quand on leur parlait de géhenne, de Gehinnom, ne me parlez plus de ce lieu. Et donc, quand Jésus parle de ça, il parle de ce feu qui brûle en permanence, ce feu des impies. Il parle des gens qui étaient vraiment dans la rébellion contre Dieu. Qu'est-ce que dit Jésus? Il dit « Entrez par la porte étroite ». Je lis ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 13. « Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » En fait, Jésus n'a certainement pas utilisé le ton que je viens d'utiliser. Quand il a dit ça, il a certainement dit « Entrez par la porte étroite !» Parce que large est le chemin, beaucoup vont par là. Mais la porte étroite, il y en a peu qui la trouvent. Entrez ! Il plaidait avec les gens. Jésus n'était pas détaché et froid en parlant de l'enfer. C'était quelque chose d'abominable à ses yeux. De voir des gens aller en enfer, perdre pour l'éternité. Dans l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 43 à 48, il décrit un peu cette géhenne et il lance un avertissement encore. Marc 9, 43. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. » Dans le feu qui ne s'éteint point. Et il continue avec le pied, avec l'œil. Et il dit, mieux vaut n'avoir qu'un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Il cite Ésaïe, car tout homme sera salé de feu. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Est-ce qu'il faut vraiment se couper la main? Se couper le pied, s'arracher un œil? Évidemment non. Mais il dit, si il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche de venir à Dieu, qui t'empêche de te repentir, coupe-le, parce qu'il vaut mieux entrer manchot que d'aller en enfer. Si vous avez un péché, par exemple, quelque chose ou une idole, vous dites, ah, ça, j'y tiens, mais j'ai compris que je ne peux pas avoir ce péché et Jésus-Christ en même temps. Il faut que je choisisse. Et personnellement, pour l'instant, je choisis d'avoir ce péché. Je veux vivre ma vie comme ça, tranquillement. Je ne veux pas que Jésus me dise quoi faire. Je veux vivre ma vie, qu'il me laisse tranquille. Et Jésus vous répond, écoute, il vaut mieux que tu perdes ce plaisir que tu as, ce péché auquel tu es attaché, et que tu ailles au ciel quand tu meurs. Que toute ta vie de dire, ah, ben moi je fais ce qui me plaît, j'ai pas Dieu qui me dit quoi faire, mais finalement de passer ton éternité en enfer. Le choix est rapidement fait normalement. Hein? Qu'est-ce qui vaut mieux ? Faire n'importe quoi, ce qui nous passe par la tête sur la terre et aller en enfer ? Ou suivre la direction de Christ et aller au ciel, avoir la vie éternelle ? Mais ce n'est pas juste une question de calcul, c'est une question même de bon sens. Quand on réalise qu'après la mort vient le jugement, on se dit « il faut que je fasse quelque chose ». Notre sœur, tout à l'heure en témoignant, a parlé de sa maman qui, lorsqu'elle a été très éprouvée, a commencé à chercher Dieu de tout cœur. Et très souvent, c'est quand on est éprouvé qu'on commence à penser à Dieu sérieusement. Pourquoi ? C'est notre nature humaine. Tant que tout va bien, ben tout va bien. Quand j'ai des problèmes, je me dis « je suis petit, je suis fragile, je suis faible ». Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? On regarde autour de soi, il n'y a pas grand monde en général. Surtout quand on commence à penser à la mort, quand on a une maladie grave, et on se dit « je vais bientôt mourir » ou « je vais mourir un de ces jours hein. ». De toute façon, c'est bientôt, malheureusement. Trop tôt. Et on se dit « mais je ne suis pas prêt à mourir, mais comment ? Qui va m'aider à mourir ? Qui va m'aider à passer ce cap de la mort ?» Il n'y en a qu'un qui peut vraiment vous aider, c'est Jésus-Christ. Mais souvent, il faut passer par des moments difficiles pour y penser. Il faut réaliser qu'il y a une éternité après. Il ne faut pas croire que la vie, c'est juste 70 ans, 80 ans là sur la terre. Non, notre âme est éternelle. Est-ce que vous aimez préparer vos vacances d'été à l'avance ? En France, on est très fort pour ça. Les vacances sont sacrées, n'est-ce pas ? Et alors, on les prépare. Alors, on dit, ah, je vais aller là, je vais faire une réservation, on va mettre de l'argent de côté, on va faire un beau séjour à l'hôtel, ou je ne sais pas quoi. Maintenant, si je faisais un sondage dans la rue en disant, est-ce que vous avez préparé votre éternité ? Il y a peu de gens qui diraient, ah oui, moi, ça y est, je suis prêt, hein, tout est prêt. Il y en a, ils ont préparé leurs obsèques. Ce qui est pas mal déjà. Mais les obsèques, c'est pour votre corps. Préparer l'éternité, c'est pour votre âme. Votre corps, lui, va tomber dans la poussière. Votre âme, elle va continuer à vivre et elle va subir le jugement de Dieu. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Dieu ? C'est pour ça que Jésus a parlé de la géhenne. Il a dit « Préparez-vous ». Ne restez pas sur le chemin large. Parce que la question, c'est qui va dans ce châtiment éternel ? On se rassure en disant, bon, il y aura peut-être Hitler, Staline, tous les violeurs criminels, je ne sais pas qui d'autre. Et même, il y en a certains qui disent, non, personne n'ira en enfer. Même Hitler, finalement, ira au paradis. Personnellement, je n'aimerais pas être en sa présence au paradis, sachant qu'il ne s'est jamais repenti de ce qu'il a fait. Qui va aller au châtiment éternel ? Quand Dieu juge, il juge tous les péchés. Il ne juge pas juste les assassins, les assassinats, les pires choses, les tortures. Il juge tous les péchés. Aux yeux de Dieu, l'orgueil a la même valeur quasiment qu'un crime. Parce que l'orgueil, c'est cette pensée que je suis comme Dieu. Je suis supérieur à mon prochain, et par orgueil, on est capable du pire. Il a fallu une énorme dose d'orgueil à Hitler ou à Staline pour massacrer tant de gens. pour penser qu'ils avaient droit de vie et de mort sur toutes ces personnes. Ceux qui vont au châtiment éternel, c'est ceux qui ne font rien de spécial. Et c'est ça qui est choquant quand on lit la Bible. C'est-à-dire, vous vivez votre vie et vous ne réalisez pas qu'au bout de votre vie, c'est la perdition. Quand vous allez mourir, vous n'êtes pas prêt. Pour être prêt, il faut faire quelque chose. Il faut s'arrêter, il faut changer de direction. Mais si vous continuez sur ce chemin large, qui vous paraît agréable, parce qu'il y a plein de monde avec vous, ah, toi aussi, ouais, mais voilà, nous, on est des gens bien, nous. Bah oui, nous, on est des gens bien. On n'est pas des criminels. J'ai pas volé, j'ai pas tué. Et puis, vous êtes en bonne compagnie, vous dites, ben, tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Et puis, arrive la mort. Et là, le jugement, vous n'êtes pas prêt à affronter le jugement de Dieu. Parce que vous arrivez avec tous vos péchés et vous n'avez rien pour être pardonné. Rien du tout. Vous allez peut-être essayer de balbutier en disant, mais quand même, j'ai fait quelques bonnes choses. Oui, mais regarde le nombre de péchés que tu as commis à côté, contre la loi de Dieu. La loi de Dieu, mais je ne la connaissais pas. Ah bon? Tu ne la connaissais pas. Et l'éducation que tes parents t'ont donnée. Et la Bible, les passages de la Bible que tu as entendus. Et les moments où ta conscience t'a dit, ça c'est mauvais. Tu crois que tu n'as jamais entendu la loi de Dieu? Si, tu l'as entendue, mais tu l'as écartée. On n'aura rien à dire devant Dieu, parce que Dieu est absolument juste. Il ne laissera rien passer et il ne poussera pas plus d'un côté ou d'un autre. Mais dans sa justice, il sera obligé de nous condamner si nous arrivons au jugement comme ça, tout nu. Il faut se préparer pour échapper au châtiment éternel. Dans sa vie, le Seigneur a raconté beaucoup de paraboles et d'histoires. Il a raconté l'histoire de l'homme riche et de Lazare. On la trouve en Luc chapitre 16. Et il dit qu'il y avait cet homme qui menait une brillante et joyeuse vie, très riche. Mais ce n'est pas le fait qu'il soit riche qui était mauvais, c'est qu'il avait fait de l'argent son idole. Il ne vivait que pour lui-même. Il était totalement égocentrique et il voulait s'enrichir pour lui-même. Et au pas de sa porte, il y avait un mendiant qui s'appelait Lazare. D'ailleurs, Jésus ne donne pas le nom de l'homme riche, il donne le nom de Lazare. Aux yeux des hommes, Lazare, c'était une loque, un SDF, comme on dirait, sans nom. Aux yeux de cet homme riche, c'était vraiment même une gêne. C'était gênant d'avoir cet homme sous ses yeux. Lui, il voulait vivre sa vie joyeuse, il ne voulait pas être troublé. Et Lazare, apparemment, était un homme qui mettait sa foi en Dieu, qui faisait confiance au Seigneur et malgré sa peine et son peut-être handicap, on ne sait pas, se retrouvait là. Et lorsqu'ils sont morts tous les deux, Lazare est allé rejoindre les croyants dans la félicité près d'Abraham et l'homme riche s'est retrouvé dans le séjour des morts. Et Jésus, alors là, c'est l'histoire qui le dit, l'histoire que Jésus raconte, nous dit que l'homme riche était en souffrance dans son séjour des morts et il voit Abraham et Lazare à côté de lui et il les interpelle, il dit, « Mais je souffre, donnez-moi à boire, j'ai soif, ça me brûle !» Et Abraham lui dit, « Mais il y a un gouffre entre toi et nous. On ne peut pas accéder, tu ne peux pas venir chez nous et nous, on ne peut pas venir t'aider. » Tu es dans ta destination finale. Et lorsque l'homme riche comprend cela, il dit, alors allez avertir mes frères qui sont encore vivants, dites-leur qu'ils ne me rejoignent pas dans ce lieu de tourment. Et Abraham lui répond, mais ils ont la Bible. Ils ont la Bible. Ils sont avertis déjà. S'ils suivaient l'Écriture, ils iront au ciel. Mais Abraham précise dans la bouche de Jésus, même si un mort ressuscitait devant eux, ça ne les sauverait pas s'ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Parfois on dit, Seigneur, je suis prêt à croire en toi si tu fais un miracle là maintenant sous mes yeux. Alors là, d'accord. Mais il y a déjà plusieurs miracles qui ont été faits. Il y a la Bible. C'est un miracle en elle-même, la Bible. Comment ce livre aussi ancien soit encore présent, soit encore un des livres les plus vendus, les plus traduits, les plus imprimés de la terre. Mais surtout, comment ce livre qui est écrit par 45 écrivains différents, vivant à des siècles d'écart, dit toujours la même chose, va toujours vers le même but. Il parle du Sauveur, du Messie, et il parle justement du jugement et du salut et du pardon des péchés. Et nous avons la Bible en vente libre en France. Ah, si vous allez dans d'autres pays, avoir une Bible, ça peut vous amener en prison. Ou dans certains pays d'Afrique, les gens n'ont pas assez d'argent pour avoir une Bible. Ils n'ont même pas assez d'argent pour s'offrir un livre. Mais en France, on ne peut pas dire ça. D'ailleurs, je suis content que la Bible se vende pas mal à la FNAC. Ils mettent une sorte de liste des livres les plus vendus. La Bible à 1,50€. Je pense que le prix doit aider, mais qu'il y a quand même une soif qui revient de la Bible. Justement, quand on est dans la détresse, quand on est dans les difficultés, jusque-là, on a appris à s'appuyer sur soi, à dire non, on va faire face. Et puis, vous ne pouvez pas faire face à un cancer tout seul. Vous ne pouvez pas faire face à un deuil tout seul, à un divorce tout seul, à la mort. Et c'est là qu'on commence à regarder en haut. Et s'il y avait un Dieu ? En tout cas, c'est comme ça, moi, que je suis venu à la foi, étant complètement athée. Je n'ai pas été spécialement éprouvé dans la vie, à ce moment-là, mais j'étais éprouvé dans ma conscience, c'est-à-dire, je me posais énormément de questions sur la mort, la vie, la vérité, le bien, le mal, et je n'avais aucune réponse humaine. Et c'est là que j'ai commencé à dire, mais s'il y avait quelqu'un au-dessus qui avait la sagesse, la vérité, la réponse, et comme par hasard, dans mes études, j'étais amené vers la Bible. Mon professeur de philo, qui était israélite, nous faisait étudier des passages de la Bible en classe. Comme par hasard. C'est pas courant en France. Et c'est à partir de là que je suis venu à lire la Bible et à découvrir que le Dieu et le Sauveur de la Bible n'était pas forcément celui que j'avais connu dans la religion de mon enfance, mais qu'il était merveilleux, qu'il était extraordinaire et qu'il était venu me tendre la main. Mais ceux qui refusent cet amour de Dieu, ceux qui refusent d'écouter, qui s'endurcissent, pour cela, il n'y aura pas d'autre pardon, il n'y aura pas d'autre chance. C'est comme quelqu'un qui se noie, il crie au secours, vous lui envoyez la bouée de sauvetage et il met la bouée de côté et dit « j'en veux pas de ta bouée ». Alors vous lui tendez une perche, mais « j'en veux pas de ta perche ». Une échelle, une corde, et il rejette tout ce que vous lui donnez. Il coule. Il se noie. Mais il se noie par sa faute. Il y a des gens comme ça qui sont morts tragiquement, ils ont refusé que les sauveteurs viennent à leur secours. Ils ont dit « Non, non, je vais m'en sortir !» Et ils sont morts tragiquement. Si on a un brin de bon sens, on va tendre la main vers notre Créateur et dire « Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Seigneur, je ne suis pas prêt à affronter ton jugement, parce que moi, je suis pécheur et toi, tu es saint. » Alors, le dernier point de mon message, c'est qui peut échapper ? Comment peut-on échapper à l'enfer ? Parce que c'est ça le but de la Bible. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pas pour nous taper dessus en disant « vous allez tous aller en enfer ». Il est venu nous sortir de là, parce qu'il nous aime. Dieu ne supporte pas qu'une seule de ses créatures soit perdue. C'est Jésus qui a raconté l'histoire du berger qui s'occupe de ses brebis. Et il a 100 brebis. Et il y en a une qui se sauve. Et elle se perd. Et Jésus dit, il va laisser les 99 pour aller chercher celle qui s'est perdue. Il pourrait dire, bon, une de perdue, dix de retrouvée. Il va chercher la brebis perdue. Ça, c'est le caractère de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, en 1 Thessaloniciens 1:10, que Jésus va revenir nous délivrer de la colère à venir. Il y a une colère à venir, colère de Dieu, mais Jésus nous en délivre. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être condamné par Dieu. Vous dites, mais pourquoi? Mais je vous l'explique. C'est parce que Jésus a déjà pris votre condamnation sur lui. C'est pour ça que Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui se sacrifie pour nous. C'est que cette condamnation que nous méritons pour nos péchés, Jésus l'a prise sur lui. Lui, il était juste et parfait, et pourtant, il a pris sur lui nos fautes. Lorsqu'il a été cloué sur cette croix, il y a eu 3 heures de ténèbres en plein midi, 3 heures où la colère de Dieu, on peut le dire, est tombée sur Christ, à notre place, sur nos péchés. Et celui maintenant qui dit à Jésus, sauve-moi de mes péchés, sauve-moi de l'enfer, il peut être sauvé, il sera sauvé. Parce que Jésus a déjà payé. On ne peut pas être condamné 2 fois pour la même faute. Hein? Même dans les tribunaux humains, si vous avez déjà payé votre dette 1 fois, vous avez fait de la prison pour votre crime, on ne peut plus vous remettre en prison pour le même crime. Vous avez payé, c'est 1 fois pour toutes. Eh bien, nos péchés ont été payés par Christ. Celui qui dit, je ne veux pas de Jésus, je n'ai pas besoin de Jésus pour me sauver, celui-là se prive lui-même du salut. Et le jour du jugement, il sera tout seul, tout nu, devant Dieu. Celui qui dit, j'ai besoin d'un sauveur, parce que le mal est plus fort que moi, parce que j'ai fait beaucoup de mal, j'ai désobéi à Dieu, je veux être sauvé, Seigneur Jésus, sauve-moi, pardonne-moi, celui-là sera pardonné. Le jour de la résurrection, Dieu lui dira, tu es dans le livre de vie de l'agneau, je ne te condamne pas parce que tu es en Christ, tu es couvert par la justice de Christ, tu es mon enfant, viens au ciel avec moi. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dit la Bible. Et ce dernier verset que j'aimerais souligner, Jean chapitre 3, l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 36, qui résume de façon très claire et très simple tout ce message. Celui qui croit au Fils, qui croit en Jésus-Christ, a la vie éternelle. Il l'a. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et c'est à chacun de nous de se positionner devant Dieu. Encore une fois, Dieu nous laisse beaucoup de temps et de liberté. Dieu est très patient avec nous. Et il nous invite, il plaide avec nous, mais il nous prévient, il nous dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Il est sous la colère de Dieu. C'est-à-dire le jour où il meurt, la colère est sur lui. Et l'enfer est sa destination. Tandis que celui qui croit au Fils, il a déjà la vie éternelle. Ce n'est pas qu'il aura, hein, peut-être, s'il est un bon chrétien. Non. Si on a Jésus, on a la vie. C'est ça que dit la Bible. Car la vie éternelle, le paradis, le ciel, le salut, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église qui sauve. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Ce n'est pas nos prières qui nous sauvent. C'est Jésus-Christ, l'unique sauveur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pour ça qu'il a été envoyé. C'est pour ça qu'il est le sujet, le personnage principal de toute la Bible. Parce qu'il est l'unique moyen de salut. Il n'y a de salut en aucun autre, dit la Bible. Même pas la Vierge Marie. Elle ne peut sauver personne. Et ça, je le tire de la Bible. Ce n'est pas ma propre idée sur la question. Parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. Maintenant, où en êtes-vous? Est-ce que vous voulez croire au Fils? Est-ce que vous croyez au Fils? Est-ce que vous voulez que Jésus-Christ soit votre sauveur, votre Seigneur, qu'il vienne dans votre vie? Ou est-ce que vous dites, non, je veux continuer à mener ma vie à ma façon. Je veux rester sur le chemin large, peu importe ce qu'il arrive. Sachez que Dieu ne vous forcera jamais à changer de direction, mais il vous avertira beaucoup par amour pour vous. On ne peut pas forcer quelqu'un à attraper la bouée ou la perche qu'on lui tend. Ce n'est pas agréable de donner ce message ou de l'entendre quelque part parce que on est appelé à prendre une décision. On ne peut pas rester indifférent et dire, ah ben moi, de toute façon, peu importe que j'aille au ciel ou en enfer, ça m'est égal. Non. Si vous êtes normalement constitué, non, ça ne m'est pas égal. Mais je vous demande de considérer les choses avec ce que Dieu dit. Faites abstraction de moi. C'est tout ce que je vous ai dit, c'est tiré de la Bible. Tout ce que je vous ai dit, c'est Jésus qui le dit. Et nous sommes appelés tous à nous décider, à choisir où nous allons passer l'éternité. Dieu a tout fait pour qu'on soit tous sauvés. Mais maintenant, c'est à nous de répondre et de dire, moi, je veux être sauvé. Moi, je veux aller avec toi au ciel. Si vous ne répondez jamais à l'appel du Seigneur, vous irez à la perdition, dit Jésus. Mais si vous êtes prêt à passer par la porte étroite, et la porte étroite, c'est Jésus-Christ, en fait. Pourquoi c'est appelé la porte étroite? Parce que c'est pas très à la mode hein, de croire en Jésus-Christ. Et c'est un peu humiliant, des fois, de dire, moi, j'ai besoin d'un sauveur. Ah bon, alors t'as besoin d'un sauveur, alors t'es faible. D'ailleurs, la religion, c'est pour les faibles, n'est-ce pas? C'est une béquille pour les gens qui ne savent pas s'en sortir. Non, la religion, c'est pour les sages, je dirais. Ceux qui ont compris qu'ils ont besoin d'un sauveur pour leur âme. Si vous êtes dans ce cas, dans les minutes qui suivent, pendant qu'on va prier, j'aimerais vous donner cette occasion de répondre à l'appel d'amour du Seigneur. On va chanter... « Tel que je suis », le numéro 258.